Bienvenue aux auditeurs de PFM Radio. Bruit de couloir, une émission animée aujourd'hui par des détenus du centre de détention de Bapaume. Au sommaire, quatre sujets. Interview d'une jeune dame qui s'est mariée en détention. Différents témoignages sur la vie carcérale. Un moment littéraire, une chronique littéraire et un moment de poésie avec Jean. Abordons notre premier sujet, le mariage en prison. Voici donc une interview d'une jeune mariée par Aurélie et Marie.
Salut Farah, tout d'abord une nouvelle fois félicitations pour ton mariage.
Merci.
Merci d'avoir accepté de répondre à quelques questions.
Avec plaisir.
Alors, peux-tu partager avec nous comment vous vous êtes rencontrés, toi et ton mari?
On s'est rencontrés en activité, en détention.
Vous avez rencontré des difficultés pour vous revoir après l'activité?
Oui, énormément.
Alors, je sais que vous correspondiez par courrier. Le fait que vos écrits soient lus par les surveillants, est-ce que ça vous a dérangé?
Ça vous a freiné? Non, pas forcément. Mais ce qui m'a dérangé, c'est qu'on ne pouvait pas avoir contact. C'est qu'on ne pouvait pas communiquer hors courrier. Oui. Qu'en activité, on n'avait pas le droit de communiquer. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais on pouvait parler que de l'activité, en fait. Et du coup, quand j'ai demandé au service de probation d'insertion ou au chef d'avoir au moins un parloir ou de le contacter par cabine, c'était interdit. D'accord. C'était refusé automatiquement.
Qui a fait la demande de mariage?
C'est lui.
Comment a réagi vos familles respectives?
Alors lui, je ne sais pas. Je sais pas, ils étaient d'accord, mais ça faisait un peu bizarre. En prison, ils ont préféré que j'attende la sortie. Mais ils ont vu que j'étais déterminée. Au bout d'un an, ils ont vu que j'insistais.
Oui.
Après, ils ont collaboré. Quand je dis ils ont collaboré, ils ont choisi ma tenue et tout.
Oui.
Voilà. Ah, super. Est-ce que les démarches ont été compliquées?
Un peu, parce que on avait certains documents que on devait remplir en commun et qu'on ne pouvait pas s'échanger par courrier interne. Du coup, on a un peu galéré, on devait s'écrire par écrit, s'il te plaît, envoie ça, s'il te plaît, envoie ça. Et même par rapport aux témoins, si moi j'avais tous mes témoins ou lui, il avait tous ses témoins et tout, mais sinon ça va. Par contre, ce qui a été un peu plus compliqué, c'est l'annulation du mariage, que ça a été repoussé.
D'accord, il y avait une raison à cette annulation?
Il y a eu deux dates de mariage, alors une annulée, une repoussée, puisque la mairie avait oublié de publier les bancs.
D'accord.
Et la troisième était la bonne.
D'ailleurs, comment est-ce que vous avez choisi vos témoins et est-ce que vous auriez pu choisir des personnes de l'extérieur?
Alors, oui, on pouvait choisir des personnes de l'extérieur, mais on n'était pas très informés. On savait pas très bien. En fait, on nous a donné des documents, mais personne ne nous a. Comment expliquer? Personne ne nous a expliqué les démarches à faire et tout. Et Aurélie, je la connais depuis des années, dans une autre prison. Ça veut dire que c'était automatique, c'était Aurélie et tout. Et l'autre témoin, elle m'a demandé, mais après, elle a changé d'avis. Mais bon, j'avais une témoin au moins.
Vous étiez obligée d'avoir un témoin?
Oui.
Et la détention, est-ce qu'elle autorise les robes de mariée? Est-ce
que t'as... Non. Non, non, du tout. C'était un peu compliqué parce que je devais avoir la robe de mariée est interdite, strictement interdite. Et moi, personnellement, j'ai pris du poids en détention. Ça veut dire que fallait que j'imagine une tenue, mais qui ne soit pas trop sexy, qui ne soit pas transparente. Et personnellement, il faut expliquer tout ça à la famille. Il y a un truc qui nous plaît, perso, parce que c'est le jour de notre mariage. Et c'était un peu compliqué, mais après, il y a toujours des solutions et... La troisième fois était la bonne.
Ouais, t'étais magnifique.
Merci.
Et tu sais pourquoi les robes de mariée sont interdites, sachant que le mariage est autorisé?
Pourquoi elles sont interdites? Non, je ne sais pas. On m'a juste envoyé un courrier comme quoi la robe de mariée était interdite. Beaucoup de femmes se sont mariées avant moi en ballerine, parce qu'ils nous expliquent rien en fait. Et on pense qu'on a droit aux tenues qui sont autorisées en détention pour la vie de tous les jours. Et comme moi, ils m'ont juste dit, ben, tu fais rentrer ta tenue. Du coup, ben, j'ai dit, maman, ramène des talons. Si c'est refusé, c'est refusé. Si ça passe, ça passe. Et du coup, c'est passé.
Ah, tant mieux. Au moins les talons, quand même.
12 cm, je précise.
Oh, dis donc.
Je précise.
Et ouais, puis elle gérait bien, franchement.
Nickel. Tu peux expliquer l'achat des alliances qui, apparemment, est particulière en détention?
Ah, c'est super particulier. À la base, il m'avait écrit un courrier. Parce qu'en fait, on ne connaît pas nos tailles de doigts. Oui. C'est bizarre, logique. Mais c'est la vérité. On ne connaît pas nos tailles de doigts, puisqu'on a vu qu'on n'a pas de bijoux et tout. Et personne ne nous a informé sur les alliances. Ils voyaient qu'on s'est changé du courrier, mais jamais ils nous ont dit oui. Concernant vu qu'il est lu, ils savaient un peu le problème. Du coup, ils voulaient me faire un virement pour qu'on achète les alliances. Et quelques jours avant le mariage, j'ai parlé à la chef du bâtiment, ça veut dire la capitaine, en lui disant, mais on fait comment pour les alliances? Il faut une autorisation. Et elle m'a dit, pour pas qu'il y ait d'abus de... Je sais pas trop. En gros, pour pas que je profite de lui, pour pas qu'il profite de moi. Ben, du coup, chacun devait acheter son alliance. Un truc qu'on ne savait pas, qu'il nous avait pas précisé. Alors du coup, à la dernière minute, chacun a pris son alliance.
D'accord. C'est mignon.
As-tu eu de l'aide pour te préparer avant le mariage?
Pas du tout.
Personne t'a maquillée, coiffée?
Honnêtement, je me suis maquillée toute seule. Heureusement, je tiens à préciser qu'on est prévenu une semaine avant le mariage, que si on a besoin de maquillage, c'est une cantine extérieure, ça veut dire que ça dure 2 mois avant. Heureusement que j'avais cantiné du mariage 2 mois avant, mais ce n'était pas un maquillage pour le mariage, c'était un maquillage pour tous les jours, quoi. Et du coup, je me suis maquillée, je me suis préparée toute seule. Mais par contre, j'avais le soutien des filles. Mais... Je me suis maquillée. Les filles se sont proposées, mais j'aimais pas trop. Du coup, je l'ai fait toute seule.
Et est-ce que tu peux expliquer, du coup, globalement, comment s'est déroulé le mariage?
J'ai déjà assisté à plusieurs mariages à l'extérieur, ça n'a rien à voir. On peut imaginer et tout. Certaines filles m'ont expliqué comment ça se passait, en gros. Mais ça ne se passe pas du tout comme on dit. Ça veut dire que... Déjà, la veille, je n'ai pas dormi, je tiens à le préciser. On avait un peu le stress, qu'ils disent non, ouais. Que...
Comme dehors.
Il y a un petit souci, ouais, un peu comme dehors. Et du coup, je me suis préparée et tout. Je croyais que c'était 11h ou 11h30 le mariage, je ne me rappelle plus.
11h30.
Ouais. Et du coup, j'avais essayé quelques jours avant ma tenue. Et je pensais qu'ils allaient me laisser une petite demi-heure ou au moins maintenant pour qu'elle m'habille. Je me suis habillée 5 minutes avant. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y avait pas le choix. Il fallait mettre les talons, la robe et aller. Et... D'un côté, c'est un mal pour un bien parce qu'on est stressé, mais on est tellement pressé de s'habiller que le stress, il part. En fait, on pense qu'à sa tenue.
Oui, parce que tu n'as pas eu le droit d'avoir la tenue en cellule. Il a fallu que tu ailles au vestiaire, c'est ça?
En fait, c'est un peu bizarre parce qu'il y a d'autres mariés qui l'ont eu en cellule et moi, non. C'était au vestiaire. C'est-à-dire, je ne l'essayais qu'une fois.
Heureusement qu'elle est allée.
Oui.
Quel souvenir tu vas garder le plus, que t'as marqué?
En fait, ça fait des années que je suis en détention et j'ai retenu chaque instant, franchement. Quand je t'ai vue, t'étais trop mignonne. Quand j'ai eu ma robe, j'étais toute seule dans... Je vais pas dire dans une cellule, mais dans un... Je sais pas trop comment expliquer.
Tu es dans un petit...
Ouais, c'est ça.
J'étais toute seule, c'est-à-dire j'étais confrontée à moi-même. Je sais pas si ça faisait joli, on n'a pas un conseil, on n'a pas un miroir. Après, quand vous m'avez soutenue, t'as vu que j'étais essoufflée juste avant et tout. J'ai demandé au surveillant deux secondes. Elle m'a dit non, tout le monde t'attend, le maire et tout. Ça veut dire, on n'a pas le temps de gérer le stress. Et quand on arrivait, il n'y avait personne. Et 2 minutes après, je l'ai vu lui, il était trop beau. C'est la première fois que je le voyais en chemise. Après, j'ai dit vas-y, j'ai tout aimé en fait.
Pourquoi ne pas avoir attendu d'être dehors pour vous marier? Est-ce que c'était vraiment. Ça te tenait à cœur?
En fait, c'est lui qui voulait se marier à la base. Après, j'étais d'accord. Après, il a changé d'avis puisqu'il ne voulait pas se marier avec une femme dans le milieu carcéral pour sa bien-aimée. Il ne voulait pas que ça se passe ici. Mais on était officiellement ensemble. À peu près tout le monde le savait qu'on était ensemble vu qu'on s'est changé du courrier, les filles du bâtiment, que ce soit ses amis. Mais moi, franchement, j'aurais pu attendre. Mais après, c'était compliqué. Parce que si on ne se mariait pas là aussi, c'est-à-dire maintenant, et que je sortais en aménagement, du coup, vu que je sortais du milieu carcéral, les parloirs, ils allaient être refusés si on n'était pas mariés.
Oui.
et que là, c'est pas autorisé vu que je suis pas encore sortie, je sais pas.
Oui, mais
vu que je suis sa femme, c'est plus. Et même, c'est une preuve d'amour et je suis trop envie de porter son nom.
Oh, c'est mignon.
Justement, quel changement ce mariage a apporté à vous deux au niveau de la détention ?
Ben, personnellement, mon nom de famille, je l'ai gardé. C'est-à-dire qu'on ne m'appelle pas avec son nom. Et heureusement, parce que sinon, je ne serais pas retenue. Mais sinon, c'est dans les papiers, c'est surtout administratif. Ce n'est pas en détention. En détention, rien n'a changé, à part les parloirs, les UVF, les salons.
C'est quand même un grand avancement, on pouvait vous voir.
Franchement, enfin, c'est trop bien. Je n'imaginais pas qu'il était aussi marrant. Déjà, je rigolais quand il m'écrivait des lettres et tout. Mais là, c'est encore mieux. On peut se faire des bisous, on peut se dire je t'aime, mais ce n'est pas un je t'aime dans un bout de papier, c'est vraiment face à face. Et on voit qu'on s'est sincère ou pas sincère.
Ouais,
mais au contraire, franchement, c'est un mal pour un bien, parce que je sais pas trop comment expliquer, mais quand on l'a face à face, parce qu'avant, on se voyait pas, on se croisait, mais on n'avait pas de contact, on pouvait rien faire. Et là, en fait, on a 2 heures. C'est pas comme la famille, c'est encore plus longtemps. C'est-à-dire, ça dure 2 heures, on entend tout se dire, se faire des blagues, se découvrir. Même.
C'est bien. Ouais, franchement, bien.
Est-ce que vous avez déjà parlé de projets à l'extérieur ?
Oui, après. Encore plus après, mais oui, avant, on se projetait déjà. Et là, ben, on se projette un peu plus.
C'est plus facile.
On se projette un peu plus, mais c'est un peu compliqué, parce qu'on découvre le caractère de l'un et l'autre, la jalousie. Je savais qu'il était jaloux, j'étais jalouse, mais là, c'est un peu plus, ça veut dire... voilà.
Que pouvons-nous te souhaiter pour la suite ? À vous deux.
La liberté, avant tout.
Bah, c'est tout beaucoup ce qu'on d'amour. Souhaite. Tout ce qu'on vous souhaite à tous les deux.
Et beaucoup d'enfants.
Merci. Alors, on va te souhaiter tout ça. Et merci. Puis, merci beaucoup pour ton témoignage. Et puis, plein de bonheur à vous
deux. Avec plaisir.
Plein de
bonheur à tous les deux. Bisous, merci tout le monde.
Merci à la mariée en lui souhaitant beaucoup de bonheur. Passons maintenant à quelques témoignages sur la vie carcérale.
Là, on va parler ensemble, si vous voulez bien, des relations que vous avez pu garder ou pas avec votre famille. Comment ça se passe ? Est-ce que vous pouvez voir les gens ? Est-ce que vous pouvez leur envoyer des courriers ? Comment ça se passe ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça ?
Bah, déjà, il y a plusieurs façons de rester en contact avec sa famille, déjà. Premièrement, il y a le courrier. Donc, on peut écrire à sa famille, mais ça passe, c'est lu par la détention. Après, il y a aussi la cabine téléphonique. Donc, on écrit à un organisme qui est dans la prison. Il faut qu'on envoie la facture de téléphone et on enregistre donc le numéro de la personne à qui on veut correspondre. Et donc, on peut les appeler, mais pour ça, il faut payer, en fait. La communication, elle est payante. Donc, on recharge notre cabine avec notre compte. Et puis, évidemment, il y a les parloirs. Alors, les parloirs à Bapom, c'est du vendredi au dimanche. Ça dure 1 heure. Votre famille, quand elle vient, peut vous ramener des affaires, des livres, des DVD, tout ça. Elle peut vous ramener à manger parce qu'il y a des distributeurs. Après, il y a aussi les salons familiaux et les UVF. Les salons familiaux, c'est une petite pièce où on reste 3 heures avec sa famille. Et les UVF, c'est comme un petit appartement. On peut rester de 6 heures à 72 heures. Et voilà. Après, pour ce qui est du plan personnel, pour ce qui est du soutien familial, c'est très important pour moi, parce qu'aujourd'hui, toute ma famille me soutient encore, tout ça. Et c'est vrai que si je n'avais pas eu ma famille, sans un plan personnel, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est très important.
Pour avoir droit aux UVF ou aux salons, il faut absolument avoir un lien familial avec la personne. Il faut pouvoir attester de son lien avec cette personne, ou amical, vraiment, c'est la détention qui va autoriser ou non. Et ça arrive aussi entre détenus, quand ils sont mariés, par exemple le mariage qu'il y a eu, ils ont le droit maintenant de se voir en parloir et au fur et à mesure au salon ou en UVF. Voilà, donc 2 détenus peuvent se voir dans ces endroits. C'est vrai que c'est très bien au niveau des salons et des UVF parce que le temps est plus long. Parce que moi, par exemple, ma famille habite en région parisienne et là, ça leur fait plus de 2h30 aller et 2h30 retour. Donc ça leur permet de vraiment faire souffler aussi au niveau de la route parce que c'est très fatigant pour eux. Et puis il faut savoir aussi que pour avoir le droit à ces UVF, on a tout un dossier à remplir. On doit envoyer les documents à notre famille qui doit aussi remplir et signer et nous renvoyer pour qu'on puisse faire la demande. Et c'est pareil, c'est le chef de détention qui autorise ou non à ce qu'on puisse avoir ces UVF ou ces salons. Et c'est vrai que c'est très dur pour la famille parce qu'il suffit qu'ils arrivent 5 minutes en retard. Ils peuvent être... Moi, je sais que, par exemple, une fois, il avait pris rendez-vous, il arrive ici, ils disent « Ah, on n'a aucune trace que, comme quoi vous avez pris rendez-vous. » Il a dû faire demi-tour. Il n'y a pas de... Voilà. Les familles sont traitées comme nous, quoi. C'est vraiment... c'est très dur pour moi, en tout cas, de les faire souffrir comme ça. Le trajet, même s'ils sonnent au portique, ils doivent se déshabiller, enlever leur ceinture et tout ça. Et on ne leur explique pas forcément... qu'il ne faut pas qu'ils aient de choses métalliques sur eux, même les baleines de soutien-gorge et tout ça. Donc c'est très, très, très compliqué pour eux. Et puis, voilà, il faut vraiment, même pour les UVF, il faut aussi qu'on cantine, parce que c'est nous qui devons amener la nourriture si on veut manger avec eux. Eux, ils ont le droit de rentrer que la nourriture qui est, comme tu disais tout à l'heure, dans le distributeur. Ils n'ont pas le droit de nous amener un McDo ou quelque chose comme ça. C'est vraiment nous qui devons cantiner. Et c'est pareil, donc du coup, il faut avoir de l'argent. Il faut pouvoir accueillir nos familles parce que ceux qui ne travaillent pas et qui sont indigents n'ont pas forcément d'argent pour payer l'UVF. Donc voilà, c'est un cercle vicieux qui punit aussi bien nos familles que nous, quoi. Voilà, c'est compliqué.
À partir du moment où vous êtes arrivé ici en détention, j'imagine tout le monde pense aussi au jour de sa sortie. Et il y a un long parcours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe, ce long parcours vers la sortie?
Bah, moi, je suis en fin de peine. J'ai attendu 2 ans et 4 mois. J'avais pris 3 ans ferme. Là, je sors le 17 février, parce que normalement c'est le 18 février, mais comme ça tombe un dimanche, ils font sortir le samedi. Normalement, je devais faire un aménagement de peine au mois de juillet, mais ils n'ont pas voulu que je sorte avant. En fait, là, moi, je sors en foyer d'hébergement d'urgence avec mon SPIP. On a travaillé pendant 6 mois pour que je sorte en foyer d'hébergement. Sinon, je me retrouve à la rue. J'avais pas de logement.
Il faut savoir que pour certains détenus aussi, pour pouvoir accéder à un aménagement de peine, il faut faire le CNE. Alors le CNE, c'est le Centre National d'Évaluation. C'est si on a pris 10 ans, je crois. 10 ans, je crois. Et donc, on va dans des prisons qui sont spécialisées pour ça. Il y a Fresnes, il y a Réau, et Sequedin, et une autre dans le sud aussi, je crois. Donc, c'est des établissements qui sont faits spécialement pour ça. Pendant 6 semaines, on voit des SPIP, des psychologues. On voit si on est réadaptable à la société.
SPIP, c'est quoi ?
SPIP, conseillère de pénitentiaire d'insertion et de probation. Et donc, c'est eux qui nous orientent vers les démarches pour la réinsertion. Et donc, pendant 6 semaines, on voit ces personnes-là. Après, on revient dans notre établissement d'origine. Et on a normalement un rapport d'expertise, je ne sais pas comment on appelle ça. Si ce rapport est bon, on peut faire des démarches pour être aménageable. Et dans ce cas-là, si on a pris une grosse peine, on passe en TAP. Et donc la TAP, c'est 3 juges, en fait. C'est comme un jugement aux assises, en fait. J'en ai parlé à ma SPIP récemment, et elle m'a expliqué un peu comment ça se passait. C'est 3 juges qui vont revenir sur votre affaire et parler donc du rapport du CNE, tout ça. Et donc, moi, dans mon cas, si je veux être aménageable, il faut que je fasse toutes ces démarches. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde.
Il faut savoir aussi que quand on est aménageable, Souvent, on est aussi permissionnable. Et donc, en général, pour avoir un bon dossier d'aménagement, parce qu'il faut remplir beaucoup de critères pour être aménageable. Après, ça dépend des prisons. Et donc, il vaut mieux avoir fait des permissions. Donc, les permissions de sortie, c'est on sort 24 heures, on revient en détention. Et au fur et à mesure, on peut avoir plus de jours. Et aussi, donc, ils exigent entre guillemets un travail ou une formation. Il faut aussi un lieu d'hébergement. Quand on lance le dossier d'aménagement, il y a une enquête victime aussi qui est faite pour savoir au moment, pour pas qu'on aille dans les mêmes lieux proches des victimes, ce genre de choses. Il y a l'enquête d'hébergement pour qu'on y soit sûr qu'on ait un lieu quand on sort, en fait, où nous héberger. Mais c'est aussi la même chose pour les permissions, justement, parce qu'il y a pareil, un dossier tout à remplir pour pouvoir en bénéficier. Et il faut savoir aussi que toutes les peines de plus de 10 ans ont une sûreté. Et donc, quand il y a cette sûreté, on n'est ni aménageable, ni permissionnable tant que cette sûreté, on ne l'a pas dépassée ou on n'a pas enlevé un petit peu. Parce qu'on peut faire des relèvements de sûreté. C'est pareil un peu qu'un aménagement. On passe devant un juge, ça dure 45 minutes et on doit encaisser tout ce qu'ils nous disent. Et puis, en fonction d'eux, soit ils acceptent de retirer 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, c'est... Ça dépend vraiment des profils. Et c'est pareil pour l'aménagement. C'est comme le tribunal, mais c'est en beaucoup plus court, du coup, aussi. Hein. C'est 45 minutes, 1 heure. Et après, c'est au petit bonheur la chance. On a la réponse plusieurs jours après. Et de là, on peut sortir. C'est eux qui posent les conditions. Il y a le bracelet, il y a juste la simple conditionnelle, il y a le placement extérieur. Il y a beaucoup de types d'aménagement différents en fonction de ce que le juge décide pour chaque personne, pour chaque profil. Et voilà.
Tu as parlé un petit peu de la question du logement, hein, qu'il faut avoir une solution de logement. De manière générale, comment ça se prépare un peu aussi la sortie ? Bon, il y a le logement, il y a aussi la question de l'insertion sociale et professionnelle, quoi. Comment ça se passe un petit peu, ça ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Est-ce qu'on prépare aussi, en détention, ce genre de choses ?
En général, les démarches d'aménagement, elles se font avec notre SPIP, en fait, ou parfois même la psychologue peut se mêler pour essayer de trouver des logements. En général, c'est souvent la SPIP qui se débrouille pour... En fonction de notre demande, hein. Parce que si on ne demande rien, la SPIP nous laisse tout seul et on se débrouille. Mais par exemple, il y a les logements après-mise qui sont mis à disposition. Il y a plusieurs lieux d'hébergement. Après, il y a aussi en fonction des addictions, par exemple. Les personnes qui ont des addictions, on peut facilement leur trouver un foyer, par exemple, d'urgence ou même dans des structures spécialisées. Après-mise, c'est plus pour... c'est vraiment un lieu de réinsertion. Soit c'est parce qu'on a notre enfant, soit c'est aussi pour les personnes qui viennent... C'est des femmes, souvent, qui viennent de sortir de détention après une longue peine. Et il y en a même sur Amiens, enfin, il y a beaucoup de lieux qui sont disponibles comme ça. Mais les démarches se font exclusivement avec le SPIP. Et après, quand on est permissionnable ou quoi, par exemple, on peut faire des prévisites. On rencontre parfois même l'organisme se déplace dans la prison pour parler avec nous, pour nous expliquer comment ça va se passer. Parce qu'il y a quand même des règles dans ces hébergements. Il y a des horaires souvent respectés, il n'y a pas d'alcool, de drogue. Pour faire venir quelqu'un, souvent, il faut... Faut prévenir. Après, ça dépend. Certains sont plus stricts, d'autres c'est plus libre. C'est assez aléatoire. Et puis voilà. Après, je ne sais plus la question.
Aussi sur l'insertion sociale et professionnelle.
Là, c'est vraiment. Il faut se débrouiller tout seul en général. Hein. C'est avec les permissions justement. On peut demander des permissions exprès pour passer des entretiens. En plus, souvent, c'est accepté, évidemment, parce qu'ils veulent absolument qu'on ait un travail ou une formation ou la preuve qu'on cherche du travail. Mais en général, on peut, faire une permission, aller passer des entretiens. Il y a aussi un pôle emploi ici, PPAIP, ça s'appelle comme ça, qui vient, mais elle est très demandée. Elle est toute seule pour quartier femmes et quartier hommes. Donc, c'est assez compliqué d'avoir des entretiens. Mais elle peut nous trouver des postes, par exemple. Et ça, c'est plutôt positif. Après... C'est pareil, il faut, par exemple, les personnes sont plus âgées ou plus en âge de travailler, c'est un peu difficile de leur demander d'avoir un travail à l'extérieur, et ça, ils devraient peut-être revoir ce critère.
Et toujours dans la logique de la détention, on nous demande de chercher un logement, un travail, mais on ne sait pas encore nos interdictions. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que moi, par exemple, je ne suis pas du tout d'ici. Ma famille, elle est dans l'île de France. Je vais chercher du travail là-bas, mais je ne sais pas si je ne vais pas être interdit de travailler là-bas, ou de vivre là-bas d'ailleurs. Donc les démarches, et en plus vous devez les faire tout seul. Moi, par exemple, qui n'ai pas du tout de famille, si vous n'avez pas de contact à l'extérieur ou quelqu'un qui peut vous aider à vous chercher du travail, il n'y a pas Internet ici. Et comme elle disait, la personne pour chercher de Pôle emploi est très difficile à avoir. Donc c'est très très compliqué. Moi je trouve, franchement, on est tout seul. Moi je me sens seule en tout cas. À chaque fois on me parle de projet, il faut que vous montiez un projet, mais vous n'avez aucun projet. Mais en même temps, le projet, tant qu'on ne sait pas nos interdictions, quand est-ce qu'on sort, je ne me vois pas dire à un employeur ma fin de peine elle est en 2029, mais je voudrais un travail. Il va me regarder et dire, mais elle me prend pour qui? Je ne sais même pas où je suis. Non, voilà. C'est très compliqué. Moi, je trouve ça très, très dur, personnellement.
Aussi pour préciser qu'il y a certaines personnes, le juge, au moment du procès, a prononcé déjà les interdictions. Et donc, c'est un peu plus simple après pour se projeter. Mais pour beaucoup, ça n'a pas été fait. Et donc, ça, par contre, c'est problématique pour avancer et pour s'en sortir.
Comme le disait Aurélie, on ne peut pas se projeter en fait, parce qu'on ne sait pas en fait de quoi notre avenir il sera fait. Donc on a beau avoir plein de projets, moi je sais que dehors là je peux avoir des hébergements, je peux avoir du travail, mais mon aménagement c'est qu'en 2025, donc ça ne sert à rien que je pense à ça pour l'instant. Donc en fait, quand je suis rentré en prison, tout ça, avant que j'aie ma peine, tout ça, j'avais beaucoup d'espoir sur ma réinsertion, sur ma vie future. Après, j'ai su la peine que j'ai prise. Après, ma compagne m'a quitté. Donc, ça m'a scié les jambes, en fait. Donc, j'ai plus. C'est pas que j'ai plus d'espoir, mais je me fais plus de films, en fait, sur l'avenir. J'attends au jour le jour. Et le jour où je serai prêt et où je saurai vraiment à 100% ce qu'il en est, là, je ferai les démarches. Mais ça ne sert à rien de faire les démarches, de se avoir un tas d'espoirs qui vont être balayés par des gens qui vont dire non, c'est pas possible parce que vous avez ça comme interdiction, ça, ça, ça. Donc pour l'instant, je me fais aucun film sur l'avenir, en fait. Voilà.
Est-ce que vous diriez que la détention, ça déshumanise en tant que personne détenue?
Absolument, oui. Je vais vous dire tout simplement par un seul fait. Bon, c'est peut-être parce que j'ai une éducation qui date pas de notre époque, mais quand vous rentrez ici, on vous dit pas monsieur ni madame, on vous appelle par votre nom. Comme dans le temps, on nous appelait par notre nom quand on allait à l'école, en CM1 ou en CM2, enfin, je ne sais pas si vous avez connu ça, vous. Mais je trouve ça relativement, je ne vais pas dire dégradant, mais c'est péjoratif. Pourtant, ça ne coûte pas cher de dire monsieur ou madame, mais ce n'est pas fait. En fait, je crois que c'est volontaire, c'est pour bien nous faire sentir qu'on n'est pas en vacances ici, quoi. Voilà.
Pour rajouter qui a été dit précédemment. Il y a aussi, par exemple, juste le numéro d'écrou. En réalité, c'est ça aussi. On est des numéros d'écrou dans le dossier. On nous connaît, les soeurs nous connaissent, etc. Mais on nous demande toujours le numéro d'écrou parce que c'est ça notre identification en centre de détention, en maison d'arrêt. C'est ce qui nous représente. Est-ce qu'on est déshumanisé? Oui et non, parce que c'est vrai qu'on est des détenus, on est traités en détenus et on n'a pas le choix. On encaisse, même si on nous crie dessus, on doit encaisser, on ne peut pas se révolter, ou on ne peut pas, même juste parler calmement, ce n'est pas possible. Moi, je préfère opter pour, si on me dit une critique, je parle évidemment de ce qui est surveillant, direction, je vais dire oui, et puis c'est tout, je ne vais pas chercher à me justifier, parce que, pour moi, après c'est mon ressenti peut-être, je suis qu'une simple détenue, et je reste à ma place. Tout simplement. C'est peut-être malheureux ou peut-être il faut apprendre à parler, mais c'est vrai que moi je préfère cette option-là parce que je trouve ça plus facile que de rentrer dans des débats avec des personnes où de toute façon, nous en tant que détenus, on sera toujours inférieurs dans l'échelle de la vie et même pour les personnes qui sont à l'extérieur. Les détenus, on est des détenus et on ne doit pas sortir, quoi. C'est ça, on n'est pas considéré comme des personnes qui ont des sentiments, qui ont une vie aussi à côté à mener, parce que on a fait quelque chose et puis c'est tout, on est défini par nos actes. Et malheureusement, ça le restera, je pense, encore longtemps.
Comme disait Marie, je pense que quand... C'est triste de dire ça, mais une fois qu'on est passé par la case prison, c'est comme si on était exclu à vie de la société, en fait. C'est comme si on n'avait pas le droit à une deuxième chance ou quoi que ce soit, en fait. On est passé ici, on n'est plus bon à rien. On est un déchet. T'as commis ça, t'as que ce que tu mérites. Et quand tu sors, c'est dommage que tu sortes. D'ailleurs, je regarde beaucoup d'émissions où il y a des gens qui sortent et des gens disent « Mais pourquoi il est sorti ?» Il a fait sa peine et il a le droit à une deuxième chance. On ne va pas vivre indéfiniment en prison. Et pour ce qui est de l'administration pénitentiaire, on n'aura jamais le dernier mot avec eux. Et même quand t'as raison, t'as tort. Donc ça sert à rien de rentrer dans les combats que tu sais perdus d'avance. Voilà, c'est tout.
Moi, je trouve aussi, c'est les mises à nu. Ça, je trouve que c'est... Moi, au début, je pleurais. Je vous le dis franchement, je suis quelqu'un de très pudique. Donc à chaque fois qu'on me disait de me mettre toute nue pour la fouille, je me mettais à pleurer. Aujourd'hui, je le fais. Je le fais naturellement. Et je trouve que du coup, on se met... on se fait un filtre. Notre caractère, il a changé. On a changé. On n'est plus la personne qu'on est rentré. Et ils font que de façon à ce que... Même nous, quand on se déshabille, on n'est plus une personne. On se déshabille machinalement, sans ressentir quoi que ce soit, parce que on n'est plus humain à leurs yeux, donc on fait ça comme un animal qui enlève sa peau. On n'est plus humain. Ouais.
Peut-être, est-ce que tu peux expliquer un petit peu dans quel contexte il y a des mises à nu, en fait ?
Déjà, dès qu'on arrive dans la prison, la première fois qu'on arrive en prison, ils vous mettent une mise à nu pour voir si vous avez rien sur vous, des armes et tout ça. Et après, c'est ponctuellement, quand vous avez parloir, après à la sortie du parloir, ils vous fouillent à nu. Quand vous avez une fouille de cellule, donc ils viennent fouiller toute votre cellule et après ils vous demandent à vous de vous mettre à nu. Ou quand vous rentrez de promenade, un jour ils ont décidé que telle et telle personne devait être mise à nu pour une fouille, pour voir si sur vous n'avez pas de drogue, d'armes ou de produits, un CD ou un truc comme ça, vraiment des petites choses. Voilà, donc pour vérifier, ils nous mettent à nu.
Je disais les choses qui pouvaient nous gêner auparavant, ça devient tellement automatique à force. On s'en rend même plus compte, en fait, et on le fait automatiquement, comme si on était un automate, en fait. Déshabille-toi, ok, d'accord, je vais le faire. Donc on est toujours maître de ses gestes, mais il n'y a plus rien qui nous dérange, en fait. On nous a enlevé une partie de ça, en fait, et c'est ça que je trouve un peu dommage.
Je voulais dire qu'en fait la détention, c'est quoi, c'est la détention à l'origine, c'est la privation de liberté. C'est ça, la détention. C'est une privation de liberté. N'empêche qu'on doit quand même appliquer des choses parce qu'on reste des êtres humains. Bon, je dis pas... Moi, ce que je veux dire, c'est que les gens qui sont ici sont pas des monstres pour l'éternité. Hein. Ça arrive de faire quelque chose dans la vie, mais il faut pas qu'on subisse... Même en sortie de prison, moi, j'en ai peur. J'en ai peur de ce qui va se passer à l'extérieur. Comment je vais être considéré? Comment je vais être vu? Je vais être un repris de justice? Comment les gens vont me regarder? Bon, il y en a que ça gêne pas, mais moi, ça me chagrine. Voilà, c'est... En fait, oui, on perd un peu d'humanité, oui. Si. Même beaucoup.
Même vis-à-vis de ses enfants, comment on va être regardé, tout ça? Parce que... Alors, ça, c'est dur, quand même. Parce que, comme il dit, c'est vrai, on va sortir, comment on va être considéré par les gens qui sont dehors. Enfin, ça, je m'en fous. Moi, j'ai fait une bêtise, je paye. Maintenant, ceux qui ne sont pas contents dehors, c'est pareil. Pour moi, ça ne me gêne pas. Mais c'est vis-à-vis de la famille, tout ça, comment on va être regardé, quoi. Les enfants, mes petits-enfants, tout ça, comment ils vont regarder. Bon, c'est comme ça, voulez-vous. Je ne changerai pas les choses.
J'aimerais quand même dire un point positif, quand même. C'est qu'il y a quand même des surveillantes qui sont quand même... bienveillante, je veux dire, par exemple, moi je sais qu'il y en a certaines qui m'appellent par mon prénom, certaines qui viennent me demander comment ça va, par exemple quand je reviens de parloir. Enfin, il y a des situations qui font qu'il y a aussi des surveillantes qui nous considèrent un peu plus avec humanité, justement, et c'est ce genre de comportement-là qui nous aide, nous aussi, à nous dire bon, là je passe quand même une meilleure journée, qu'on est moins considéré comme quelqu'un à ne pas toucher avec un bâton, parce qu'on nous considère aussi en tant qu'être humain, tout simplement, qui peut éprouver des émotions. Et c'est vrai que ces surveillantes-là, c'est heureusement qu'elles existent. Voilà, je voulais rajouter ça quand même.
Merci pour ces témoignages très intéressants. Nous abordons maintenant notre avant-dernier sujet, qui est un sujet littéraire, une petite chronique sur des œuvres qu'on vous invite à dévorer.
Coucou les auditos, petit moment culture avec Marie
et Aurélie.
Nous allons vous faire découvrir de nouvelles lectures qui nous ont plu.
Je vais vous parler de « Elle s'appelle Sarah » de Tatiana Rosnay, aux éditions Livre Poche. Cela relate une histoire d'une petite fille de 10 ans nommée Sarah, qui porte l'étoile jaune. Elle est arrêtée avec ses parents par la police française au milieu de la nuit, et pour se protéger son petit frère, elle va le cacher dans un placard et lui promettre de revenir. Nous sommes en juillet 1942. Nous faisons un saut dans le temps, à Paris, en 2002. Julien Germain, journaliste américaine, doit couvrir la commémoration des rafles de Valdive. Son chemin va croiser celui de Sarah et sa vie va changer à jamais. Vous allez découvrir l'histoire de deux familles liées par un terrible secret.
Alors, je voulais terminer sur une note enfantine et légère en vous proposant une collection de livres pour enfants qui s'appelle « Mamie Poule raconte » aux éditions Gauthier Langereau. Donc c'est parfait pour les tout-petits qui ne s'intéressent qu'aux images et pour nos petits lecteurs, car les textes sont simples. Et le lion qui disait toujours non ou le loup qui aimait trop les bonbons sauront faire passer de jolis messages subliminaux à nos enfants. Et à la fin de chaque histoire, tout le monde y trouvera son compte.
J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec nous. C'était
Marie
et Aurélie.
Au revoir les auditos.
Et maintenant, notre dernier sujet, un moment de poésie avec Jean.
Bonjour, le temps qui passe. Je n'ai plus le temps, ce précieux temps qui fout le camp. Je voudrais hâter le temps, ce peu de temps qui me reste, pour arriver au temps de n'être plus dedans mais dehors, dehors de ce corps qui n'a plus rien dedans, que du vent, sans aucun relent de joie mais de peine. Vous qui vivez de votre temps, au présent, dans l'instant, profitez sans attendre de ce temps qui fout le camp. Chaque circonstance, chaque joie, chaque peine qui vous font sentir vivant, vivant dans cet instant, ce moment, ce fragment. Croquez à pleines dents chaque segment de cette unique chance d'avoir ce temps, ce bon temps du présent. En cet unique instant, tout en nous écoutant sur PFM Radio, la radio des bons moments.
Voici une petite pause musicale, donc à Johnny Hallyday, vive pour le meilleur pour nos auditeurs.
Les gens qui cherchent la lumière en pleine nuit, des gens qui courent après l'amour et qui le fuient. Qui se lève pour un dieu qu'il ne voit pas. Moi j'ai ta chair contre ma chair, en ça je crois. Vivre pour le meilleur, se vouloir pour tout se donner. Thank you. femmes qui pleurent leurs enfants, mais reste digne. Toi, tu me remplis fort chaque jour, sans Dieu ni loi. Et quand nos corps se font l'amour, je sais pourquoi.
Voilà, notre émission touche à sa fin. Merci encore à toutes et à tous ceux qui ont participé. J'ai nommé Aurélie, Cynthia, Frédéric, Alain, Gérard, Jean, Marie, Alexis. Allez, passez une bonne journée en compagnie de PFM Radio. Au revoir et à bientôt.